Bienvenue sur Une semaine, un livre. Je suis Elodie, amoureuse des livres depuis ma jeunesse, je les aime en tant qu'objet, mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Sur ce podcast, je vous propose de me retrouver chaque semaine pour un moment de partage littéraire. Vous allez y retrouver mes recommandations, celles de mes invités, des retours de lecture commune ou encore un format journal de lecture. Et si ces recommandations font écho en vous, vous les ajouterez peut-être à votre propre bibliothèque. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, c'est un nouvel épisode dédié au club de lecture Pharmakeia. Cet épisode correspond au mois de février 2023. Pour m'accompagner, il y a des voix que vous connaissez déjà, des personnes que vous connaissez déjà. Il y a Daphné. Bonjour Daphné.
Bonjour.
Il y a Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et il y a Rose. Bonjour Rose.
Salut tout le monde.
Donc c'est parti. Dans cet épisode, vous allez découvrir ce qui s'est passé dans le club de lecture pour le mois de février. On a choisi, pour ce petit mois de l'année, d'aller piocher dans notre pal pour se challenger à lire le plus petit livre de notre pal. Et avant de dévoiler qu'est-ce qu'on a lu, on en a discuté sur le Discord quand on a choisi ce thème. Quel est le critère exact pour l'appellation « plus petit livre » Puisqu'on peut parler du format, du nombre de pages, est-ce qu'on inclut les BD, les essais ou tout autre format? Donc vous, les filles, qu'est-ce que vous avez choisi comme critère pour sélectionner le plus petit livre de votre pal? Alors moi, j'ai choisi le plus petit livre de ma pal en nombre de pages qui soit de la fiction. Puisque le plus petit livre de ma pal, c'était Les quatre accords Toltec. Alors j'ai plus le titre exact complet, mais je me voyais pas du tout lire du développement personnel. Donc j'ai pris celui juste en dessous, qui était du coup petit en nombre de pages et de la fiction. Et je vous dirai après de quel livre il s'agit. Et vous, comment vous avez sélectionné le vôtre ?
Moi, j'ai choisi tous mes livres qui étaient les plus fins dans ma bibliothèque, en tout cas en fiction, roman. J'avais commencé par un autre livre que je me sentais pas de présenter. Donc, j'ai pris le deuxième dans la pile au niveau du nombre de pages, parce que je les ai triés par nombre de pages.
D'accord. Un très bon choix, alors.
Moi, pour ma part, j'ai regardé dans ma pile à lire du mois de février, enfin celle que j'avais prévue au départ. J'ai choisi le livre qui m'a le plus touchée, en tout cas. C'était pas forcément le plus petit, mais en nombre de pages, ça se joue à une quinzaine de pages. Donc, bon, je me suis dit, ça rentre dans le thème. Et puis, pour le coup, c'est une non-fiction. C'est vraiment un témoignage. Donc, voilà, j'ai décidé de présenter ce livre aujourd'hui.
D'accord. Il ne nous reste plus que toi, Rose.
Ben, moi, je pense que je suis celle qui a le plus respecté la consigne. Parce que j'ai pris de tous mes romans. Alors, c'est facile parce que j'ai que des romans dans ma palle, qui est assez petite. Et du coup, j'ai pris le plus petit qui était indiqué sur mon compte Livre Addict, qui faisait 224 pages.
Ouais, donc le plus petit aussi en nombre de pages, du coup.
En nombre de pages, ouais.
Ok, ok, c'est bien. Il en faut une qui respecte la règle. Alors, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est le moment de présenter les livres qu'on a lus.
Alors, du coup, moi, le livre que j'ai lu pour le mois de février, c'était un livre de Jacques Expert qui s'appelle « Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils », qui fait donc 224 pages, qui est un roman noir avec un petit côté thriller quand même. Pour le résumé, je ne vais pas me baser sur le résumé qui a été fait sur le livre de poche moi que j'avais parce qu'il était beaucoup trop spoilant.
Ah oui.
Et ça m'agace parce que je ne lis jamais les résumés d'habitude. Et là, je l'ai lu, je ne sais plus pour quelle raison. Du coup, ça va spoiler la moitié du truc, quoi, voilà. Donc, je ne vais pas vous faire ce résumé-là, je vais vous faire mon propre résumé. Donc, déjà, il faut savoir, c'est un roman choral. Donc, il a plusieurs voix, il y a quatre personnages.
Oh.
Donc, chaque personnage a alternativement sa voix au chapitre. Et on suit notamment Antonio, qui avait un fils qui est mort renversé par un chauffard alors qu'il était à vélo. Ce papa va partir en quête de vengeance. Et donc ça, on s'en doute avec le titre, que le roman va porter sur le thème de la vengeance. Et on va aussi suivre donc trois autres personnages. Parmi ces personnages, il y a la femme d'Antonio, mais aussi le chauffard qui a renversé l'enfant et sa femme à lui.
D'accord.
L'histoire, elle se passe en France et elle a un angle réaliste qui est vraiment très fort. Et moi, j'avoue que ça m'a pas mal perturbée parce que je fais du vélo moi-même.
Oui.
Et du coup, je fais beaucoup de vélo, beaucoup sur la route, enfin, normal. Et du coup, ça a beaucoup fait écho en moi et c'était vraiment assez glaçant. C'était assez pesant pour moi comme lecture. Heureusement que c'était court. Franchement, j'aurais pas supporté 500 pages de ça.
Ouais, parce qu'il y a quand même un gros côté identification pour toi.
Ouais, même si là, pour le coup, c'est un enfant qui est victime d'un chauffard, effectivement, c'était assez facile, comme on est quand même dans la tête du chauffard aussi. C'était assez terrible, ouais.
Et du coup, on suit surtout le après l'accident, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Le roman commence sur l'accident même. Donc voilà, quand même, attention, petit warning là-dessus. C'est pas très détaillé, mais c'est quand même, ça peut être choquant. Mais après, c'est tout ce qui se passe après l'accident, effectivement.
D'accord. Et du coup, on a chacun des points de vue. Au final, le seul qui n'a pas voix au chapitre et qui est central, c'est le petit garçon, victime.
Ouais, exact. Pour le coup, ça ne manque pas trop. C'est vraiment, là, les quatre voix déjà sont largement suffisantes. Et de toute manière, le roman ne porte pas sur l'accident même. Il porte vraiment sur tous les impacts de la perte d'un enfant et comment on se reconstruit. Et après, il y a tout ce qui est la quête de la vengeance aussi, mais qui pour moi reste quand même secondaire. C'est important dans le thème du roman, mais ce n'est pas le seul message. Ce n'est pas juste la vengeance. Y a vraiment, c'est bien plus profond que ça, quoi. C'est une réflexion plus globale.
D'accord. Et du coup, in fine, est-ce que tu as aimé ou pas ce livre ?
C'est une question compliquée. Je pense que oui, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est réalisé. Je trouve que l'auteur a très bien traité le sujet. Il a utilisé des personnages qui sont très forts, très très bien détaillés, bien nuancés aussi. Ils ne sont pas tout blancs ou tout noirs. Ils sont un petit peu dans les extrêmes par contre, mais ça, je pense que c'était nécessaire pour porter le message. A posteriori, je me dis que c'était nécessaire, mais j'ai trouvé que le début était vraiment très long. Quand on est dans la tête du chauffard, il y a des passages que j'ai trouvés vraiment super longs. Mais peut-être que c'était parce que c'était être dans sa tête, en fait, qui était juste pas agréable du tout. Peut-être pour ça que ça m'a paru interminable. Mais en même temps, c'est vrai qu'une fois arrivé à la fin du roman, je me dis, mais en fait, c'est vraiment nécessaire d'être dans les têtes de ces quatre personnes et de bien comprendre. Je crois que ce qui m'a le plus plu, alors c'est paradoxal, mais c'est juste qu'il nous met un petit peu face à nos propres contradictions, face à la thématique de la vengeance. C'était très bien joué parce que c'est dur comme sujet de se dire est-ce que la vengeance est légitime, est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce que... Voilà. Et la chute était pour moi une très très bonne chute. Je ne vous la dévoilerai pas, mais... Donc globalement, j'ai bien aimé, même si c'était pesant et s'il y avait des longueurs, je ne regrette pas d'avoir lu ce roman. C'était très intéressant, ouais.
D'accord. Donc au final, ça pourrait devenir une recommandation.
Ouais, tout à fait. Alors par contre, pas une recommandation pour n'importe qui, je pense. Il faut savoir dans quoi on s'embarque. Il ne faut pas s'attendre à une enquête policière. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de joyeux. Par contre, si vous aimez les thématiques vengeance et justement suite à la disparition d'un enfant, je pense que ça peut vous plaire, ouais.
D'accord. Ok, merci pour cette belle présentation.
Moi, j'ai envie de vous présenter une lecture, un livre qui faisait 366 pages. On est sur un beau petit livre, on va dire, qui s'appelle Une déchirure dans le ciel. Enfin, c'est un livre qui a été écrit, édité aux États-Unis en 2004 et qui vient tout juste d'être traduit en France en 2022. Le résumé que je vais faire nécessite un bon trigger warning parce que les sujets qui sont abordés ne sont pas forcément faciles, enfin, ne sont pas faciles du tout même. Et sachant qu'il s'agit d'un témoignage, donc c'est le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Janine Cummins, qui est l'autrice et qui est également spectatrice touchée par l'histoire qu'elle nous raconte. Donc l'histoire prend place en avril 91. En gros, c'est la famille Cummins, donc, qui est composée des parents et de trois enfants. Tom, le plus grand, Tink, la deuxième, et la petite sœur Cathy. Ils sont en vacances à Saint-Louis. Ils terminent leurs vacances à Saint-Louis chez les grands-parents. Et puis là, ils sont avec leur cousin, leur cousine en l'occurrence. Robin, qui a 20 ans, et Julie, qui a 19 ans. La veille du départ, comme des ados, quoi. Robin, Julie et Tom, donc le plus grand de la famille Cummins, qui a 19 ans, ils font le mur. En gros, ils bravent l'interdiction de papa de sortir. En gros, les deux cousines le mènent sur un pont, le Old Chain of Rocks, avec mon super English accent. C'est un vieux pont, en fait, tout en ferraille, qui traverse le Mississippi, qui était la voie principale avant pour passer du Mississippi à l'état d'à côté et qui a été remplacé par une autre voie quelques centaines de mètres plus loin. Donc, en gros, c'est un vieux pont qui n'est plus emprunté par les voitures, mais qui reste quand même un lieu de squat, on va dire, où les jeunes, dans les années 90, pouvaient venir s'exprimer. Donc, il y avait pas mal de tags, pas mal de poèmes, des choses comme ça. Et les filles, donc Robin et Julie, étaient habituées de ce lieu-là. Elles emmènent leur cousin Tom. Et là, en fait, ils vont tomber donc, sur quatre jeunes délinquants qui s'ennuyaient, qui avaient bu. Il va y avoir viol des deux jeunes filles. Il va y avoir, sous le regard de leur cousin, ils vont battre Tom, les deux filles, et ils vont les forcer à sauter du pont. Résultat, du coup, seul Tom s'en sort. Le corps des deux jeunes filles n'est pas retrouvé. Enfin, ils vont retrouver presque un mois après un des deux corps, mais la deuxième jeune fille n'est jamais retrouvée. Le truc, c'est que le calvaire de Tom ne s'arrête pas là parce qu'il va être suspecté par la police. Il va passer des interrogatoires absolument affreux. Enfin, en fait, il va passer de la confiance de la police en même pas 24 heures à une défiance et des interrogatoires absolument immondes, avec toute la suspicion dont les policiers peuvent faire preuve et aussi l'obligation de résultat dans une enquête qui patauge. Heureusement pour lui... Bon, je spoil, hein, mais je suis désolée de spoiler... Les quatre jeunes meurtriers vont être rapidement retrouvés, donc Tom va être lâché, mais il va falloir qu'il lave son nom. Donc il y a cette dimension de la justice américaine avec ses enquêtes policières, des méthodes violentes et douteuses, quoi, on va dire, et un déferlement médiatique avec des journalistes sans scrupules qui vont couvrir le crime et en rajouter, en fait. Donc voilà, c'est pas du tout facile à lire. C'est un récit autobiographique qui est très bien construit. Je tire mon chapeau à l'autrice parce qu'elle-même, du coup, avait à peu près l'âge de ses cousines. Enfin, elle était vraiment au milieu. Elle a vécu tout ça de plein fouet. Elle a vécu toute sa famille qui, heureusement, a réussi à rester assez soudée. Pendant tout le livre, elle arrive à avoir une sorte de recul, d'omniscience, parce qu'elle va couvrir à la fois la vision de son frère, à la fois la vision des meurtriers et à la fois la vision un peu plus globale de sa famille avec ses parents, ses grands-parents, tout ça. Un truc très fort, c'est qu'elle n'utilise jamais le mot « je ». Elle ne parle jamais pour elle-même, en fait. Elle va vraiment parler plus pour son frère. Elle se concentre vraiment sur les conséquences sociales et psychologiques du meurtre. Et le livre, en fait, il va traiter autant d'avant la fameuse soirée, autant de la soirée en elle-même et autant de l'après jusqu'à plus de 10 ans après.
Ah, ça n'a pas dû être facile comme lecture.
Non, je ne m'attendais pas du tout à ça, pour parler franchement. Mais ça m'a beaucoup touchée, du coup. Ça m'a bouleversée, ça m'a limite donné envie de vomir, tu vois. Enfin, c'est vraiment, ça te prend au trip, quoi. Comme lecture, c'est pas à lire si t'es pas dans un bon mood, clairement. C'est pas à lire non plus, je pense, si tu es, toi, personnellement touchée par ce genre d'histoire. Mm-hmm. Mais par contre, tout le débat, les hauts et les bas avec la justice, les condamnations à mort qui se terminent une heure avant la condamnation à mort, enfin une heure avant le fait que la personne va passer sur la chaise ou enfin je sais pas quels moyens ils ont aux États-Unis, mais une heure avant en fait on leur dit ben en fait non, c'est suspendu. Et puis la condamnation à mort qui se transforme en condamnation à perpétuité. Le relâchement d'un des meurtriers au bout de quelques années parce qu'il était un peu moins impliqué que les autres, c'est très psychologique. Et à la fin du livre, comme c'est une histoire qui s'est réellement passée, hein, il y a des photos des deux jeunes filles qui sont décédées, avec leurs cousins, avec leur famille. Et en fait, tout ça, de les voir souriantes, de les voir vivantes, en fait, sur ces photos, ça rend le tout, mais encore plus réel, quoi. Franchement, tu finis déjà, t'es pas très bien, et puis en plus, tu vois les photos et tu fais « wow ». Ça te remue vraiment, quoi.
Rien que d'écouter, moi, j'ai des frissons, parce qu'en plus, ce genre d'histoire, quand je sais que c'est basé sur des faits réels, généralement... Là, j'ai le cerveau qui vrille et ça me prend aux tripes direct. Hein. Je serais capable de pleurer dès la première page. Moi, je suis une Madeleine.
Bah, ça ne m'a pas fait pleurer au début, en tout cas, parce que c'est amené vraiment tout doucement. Et qu'au début, bah, tu vis tout simplement la vie normale de quatre jeunes Américains, enfin quatre jeunes ados, et tu pourrais faire les mêmes bêtises qu'eux, quoi. Et après, en fait, tu rentres un petit peu dans l'engrenage de la justice, dans l'engrenage de « c'est dur ». Mais toujours avec ce poids sur l'estomac et les larmes, elles viennent à la fin, en fait. Vraiment, c'est un peu comme si toi aussi, tu te relâchais. Enfin, c'est un petit peu comme si moi aussi, du coup, je m'étais relâchée à la fin de la lecture.
Je vois.
Du coup, voilà. Moi, je ne suis pas très livre, enfin, tu me connais, hein, je ne suis pas très thriller, je ne suis pas très livre dur comme ça. Mais pour le coup, ça m'a... J'en lirai pas tous les jours, hein, mais ça m'a vraiment interpellée et je pense que c'est le côté témoignage, du coup, qui rend les choses très différentes.
Ouais, je pense que c'est le côté témoignage parce que moi, j'ai beau lire des thrillers, quand c'est un témoignage, je suis terrifiée. Hein. J'ai beaucoup de mal à lire des témoignages à cause de ça. Parce que, en fait, le fait de savoir que ça s'est vraiment passé et que cette fois, c'est pas du fictif, de l'imagination, ça fait vraiment froid dans le dos, quoi.
Ouais, complètement.
Eh bien, merci Pauline pour cette présentation, pour cette lecture très prenante. Maintenant, ça va être à ton tour, Daphné. Est-ce que tu as quelque chose d'un peu plus joyeux à nous proposer ?
Alors, je pense que c'est plus joyeux, oui.
Cool.
Un roman un peu plus léger.
Alors, on t'écoute. Il s'agit de quoi ?
Alors, j'ai lu, c'est une relecture. Le livre s'appelle « La grammaire est une chanson douce ». Ça a été écrit par Eric Orsenna. Et c'est un peu une histoire un peu fantastique, mais je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler comme ça, parce qu'il y a des éléments fantastiques, mais ce n'est pas vraiment du fantastique. Enfin, ça ressemble plus à un conte. Et donc, pour résumer l'histoire, c'est l'histoire de Jeanne, jeune fille qui va au collège, et de son frère Thomas. Leurs parents sont séparés et ils vivent chacun d'un côté de la planète. Là, ça tombe dans l'histoire que c'est le moment des vacances et donc les enfants vont chez leur père. Et pour y aller, ils y vont par bateau. Et en plein milieu de leur traversée, ils se retrouvent pris dans une tempête, un cyclone comme on a, comme on peut avoir... du côté de l'océan Indien ou même les ouragans qu'on a dans l'océan Atlantique. C'est tellement fort que le bateau coule et que les enfants échouent sur une île en plein milieu de l'océan, au milieu d'un archipel. Et quand ils se réveillent, ils se rendent compte qu'ils ont perdu leurs mots. Ils ne peuvent plus parler, ils n'arrivent plus à vraiment penser, à former des mots dans leur tête. Donc ils sont un peu perdus. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le personnage de Monsieur Henri et de son neveu, qui est un beau gosse. C'est ce qu'on a dans toute l'histoire, la petite Jeanne, mais il est trop beau. Et donc, Monsieur Henri, il arrive, et en fait, c'est un personnage qui est hommage à Henri Salvador. Donc, c'est un personnage qui est l'image qu'on a d'Henri Salvador, quelqu'un qui est doux, qui est vraiment, qui joue avec les mots, qui aime la musique, les rimes et tout ça. En fait, il va les aider à retrouver la parole, parce qu'en fait, l'île sur laquelle ils sont a une particularité, c'est l'île qui abrite tous les mots que l'on peut retrouver dans le monde.
Oh, c'est sympa ça. C'est vrai que ça fait penser à un conte.
Ouais.
C'est tout mignon.
C'est classé comme conte, en tout cas, dans Livre Addict.
Ouais, j'ai vu ça. Mais parce que je savais pas trop, j'avais trouvé sur Babelio que c'était considéré comme un roman fantastique ou de la comédie fantastique. Et du coup, je me suis dit, mais... Ouais, dans quoi on le met en fait ? Parce que c'est un peu un livre un peu hybride, quoi.
D'accord. Et du coup, l'histoire est quand même bien, bien plus joyeuse que ce que Pauline ou Rose nous a présenté. Mais est-ce que tu as quand même apprécié ta lecture ? Parce que peut-être que tu n'as pas apprécié malgré tout.
Ah oui. Ah si, si, j'ai beaucoup apprécié. C'était très poétique. On peut presque entendre Monsieur Henri jouer de la guitare ou le neveu aussi en jouer. Puis... Parce qu'on voit les mots aussi dans l'histoire et on peut presque les entendre nous parler. Enfin, voilà. Non, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé l'ambiance, le déroulé de l'histoire. Et c'est vrai que c'est à la base, c'est une histoire qui est censée faire aimer la grammaire. C'est une présentation de la grammaire, parce que je pense que c'est un livre qui est plutôt au début pour les enfants. Rien n'empêche les adultes de le lire parce que c'est très joli. Mais c'est vrai que c'est un survol de la grammaire pour à peu près donner les bases un peu de comment ça fonctionne et peut-être donner aux gens envie d'aller voir plus loin sur ce que c'est la grammaire.
Oui, et puis au final, ça montre un peu que sans les mots, tu ne sais pas te faire comprendre, tu ne sais pas t'exprimer, tu es vraiment en difficulté. Donc savoir s'exprimer correctement, c'est un atout tout au long de ta vie.
C'est ça.
Merci Daphné pour cette présentation, ça nous a mis dans un mood un peu plus joyeux, même si je suis certaine que les livres que vous avez présentés, ça vaut le coup, mais c'est des sujets un peu plus difficiles forcément. Et du coup, je vais faire un entre-deux, parce que j'ai lu Je pense qu'il est dans la catégorie polar. Je vérifie. Non, il est dans la catégorie nouvelle. Donc, le livre que j'ai lu, c'est « On ne meurt que deux fois » de Lisa Gardner. Il fait 178 pages, donc c'est vraiment un tout petit livre. Moi, je le vois comme une sorte de version livre d'un Cluedo. Et du coup, c'était hyper sympa. On est sur une nouvelle, on a une inspectrice qui s'appelle Dedi Warren. Dès le début du livre, on la voit dans son salon avec son mari. Ils viennent de finir de manger, de coucher les enfants, et ils commencent à discuter de leur journée. Ils ont un jeu. C'est pour ça aussi que ça a mis tout de suite dans l'ambiance jeu, un peu jeu de société. C'est de faire deviner, enfin, de raconter, puisqu'ils sont tous les deux dans la partie... ils sont tous les deux policiers, d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils sont au même niveau ou pas, mais ils sont tous les deux dans le monde de la police. Et ils doivent partager leurs expériences, mais les plus inédites de la journée. Ils ont ce petit jeu-là de savoir qui a l'histoire la plus inédite. Et donc, ils se lancent dans ce jeu. On va suivre, du coup, Dedi Warren dans sa journée. Et elle explique son aventure inédite. Et donc là, on bascule dans l'histoire de sa journée. Elle était au poste. Il y a un mec qui s'est pointé, plutôt âgé, en disant « Ben, je suis mort, en fait. Je ne suis pas vivant. » Mais ils ont beau dire à cet homme « Vous êtes debout, devant nous, pas froid, donc vous êtes vivant. » Cet homme leur répond « Non, je suis mort. » Et puis, un bout de la journée passe et en début d'après-midi, ils se font appeler « Ben, cet homme est vraiment mort, finalement, cette fois. » D'où le titre « On ne meurt que deux fois. » Et donc, on va suivre Dedi Warren qui va essayer de résoudre ce vrai meurtre qui a fini par arriver, de découvrir qui l'a tué. Et ça va se passer en huis clos avec un certain nombre de suspects qui sont tous dans la même maison, qui vont être interrogés, etc. Et c'est là où ça fait un peu penser à un Cluedo parce qu'on va découvrir les pièces de la maison, les personnages, de potentiels mobiles, d'où ça vient. Et donc, il faut chercher le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le couteau, quoi. C'est un peu à ça que ça m'a fait penser. Alors, je ne vais pas vous dévoiler qui, quoi, où, ni même tous les personnages qu'il y a autour, parce qu'ils ont tous une place à jouer dans ce jeu. C'est une pièce du puzzle. Et j'ai trouvé ça hyper amusant. Je l'ai vécu vraiment comme un jeu de société, même si on est sur un polar avec un décès assez tôt dans le récit, quoi. Dernière chose que je voulais ajouter... Tout au long du récit, en fait, on va de temps en temps retrouver Dedi Warren avec son mari dans le salon à déconner sur le lave-vaisselle ou je sais plus quoi. Enfin, il y a du coup cette petite part d'humour qui ferait penser à une partie de Cluedo avec d'autres personnes dans ton salon et puis t'entends un bruit. Ah, tiens, le lave-vaisselle, il s'est enclenché. Qui veut de l'eau C'est un peu à ça que ça fait penser tout au long du récit et j'ai adoré lire ça. Je l'ai lu hyper rapidement. En deux sessions de lecture, c'était fini. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de pages, donc ça va vite. Mais aussi, le côté un peu ludique, j'ai adoré. J'ai pas réussi, moi, à deviner qui était le coupable, donc j'ai été surprise à la fin.
Est-ce que tu trouves que le format nouvelle convenait bien à l'histoire ou tu as eu un goût de trop peu
Ça aurait duré un petit peu plus. Ça m'aurait pas dérangé, mais j'ai pas senti de trop peu tout de suite. Et non, je pense que ça vaut pas le coup d'un gros format comme ça, en fait. C'est vraiment... Tu vois, au lieu de faire un Cluedo qui dure 2 heures, j'ai lu un livre qui dure 2 heures en format Cluedo. J'ai vraiment vécu comme ça, et je trouve ça trop cool.
Génial. Oh, ouais, moi, ça a fini directement dans ma wishlist. Hein. Pour info, voilà, je m'as convaincue.
Alors, le dernier truc que je voudrais ajouter par rapport à cette lecture, pour ceux qui connaissent Lisa Gardner, l'inspectrice Dedi Warren, ça fait partie d'une série. Et cette nouvelle, c'est un hors-série. Donc, je confirme pour avoir lu, je crois, les 2 premiers tomes de la série Dedi Warren. Ça peut se lire en dehors. Il n'y a aucun marqueur temporel, à part éventuellement le mari et les enfants, mais on s'en fout un peu, parce qu'ils sont ponctuellement là. Et du coup, ça peut se lire vraiment en dehors. Je te vois comme ça. Pauline, tu as une question ?
Non, j'étais en train de regarder parce que j'ai déjà lu de Lisa Gardner, mais c'était pas cette enquêtrice-là, c'est une autre.
Elle en a plusieurs, elle en a 2 qu'elle...
C'est Tessa Léonie.
Ouais, mais à un moment, elle se... Je suis presque sûre.
Si.
À un moment, elle se... Enfin, elle s'embrasse pas, hein, mais...
J'ai compris.
Ouais, elles font ce qu'elles veulent, hein.
Ok, je pense que je l'achèterai aussi, ouais, pour le découvrir.
Rien d'autre à ajouter pour vous, les filles ?
Non, écoute, toutes les lectures, elles m'ont donné envie, hein.
Il est déjà temps de conclure cet épisode. Merci à vous les filles pour votre participation autour du club de lecture. Et on se donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à lui laisser une note sur Spotify ou à le commenter et à le noter sur Apple Podcasts et surtout à le partager autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen pour le podcast de gagner en visibilité. Vous trouverez dans les notes de l'épisode tous les éléments qui le concernent, le livre dont on a parlé, où retrouver mes invités et également les différents comptes réseaux sociaux du podcast. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes lectures et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.